française.
Latina.
La franco-latina.
À la veille d'une fin d'année marquée par une série d'élections présidentielles, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et l'Institut des Amériques avaient organisé une table ronde destinée à préciser les enjeux et les circonstances, souvent fort différentes, des quatre processus qui auront lieu en Uruguay et au Honduras le 29 novembre, en Bolivie le 6 décembre et au Chili le 13 décembre. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du Conseil scientifique de l'Institut des Amériques, Alain Musset a présenté sa vision de la situation hondurienne. Dans les élections de ce 29 novembre, marqueront un nouvel épisode dans la crise ouverte avec la destitution, le 28 juin dernier, du président Manuel Zelaya. Une destitution qui, entre autres, avait déclenché une vaste mobilisation populaire destinée à exiger son retour. Les élections de dimanche vont-elles marquer la fin des mobilisations ?
Je pense qu'il ne va pas s'estomper, mais qu'il va continuer autrement. Oui, ça c'est indispensable. Juan Barahona, qui est un des grands leaders du front de la résistance contre le golpe, l'a dit lui-même. Ils ont annoncé, les dirigeants, qu'ils n'allaient pas participer, bien évidemment, au vote. Ils ont demandé à leurs seguidores de ne pas aller voter. Mais il y a une dimension qui est supplémentaire et qui me paraît très très importante, c'est que non seulement il s'agit de s'opposer aux golpistas et à Micheletti, mais ils veulent aussi une nouvelle constitution. Et c'était un des arguments qui avait effectivement entraîné la destitution de Zelaya. L'accord qui était près d'aboutir entre Zelaya et les golpistes a chopé sur le principe de la constituante. Et des gens comme Barahona ont quitté la table de négociation parce qu'eux, ils voulaient cette constituante. Donc je pense que le 29 novembre, ça risque d'être une journée bien évidemment très troublée. Les protagonistes d'opposition ont dit qu'ils allaient s'opposer pacifiquement au processus, mais ce n'est de toute façon pas terminé. Le prochain président, ce n'est qu'à la fin du mois de janvier, le 27 janvier 2010, qui sera réellement intronisé. Entre-temps, on est toujours dans le vide juridique, avec cette histoire de président qui est élu, mais qui est déposé, et qui en plus maintenant sera un président qui ne sera théoriquement que dépositaire d'un pouvoir qui n'existe plus. C'est vraiment, ça devient incompréhensible.
Le Honduras a été l'occasion de voir un peu en action la nouvelle donne de la diplomatie des États-Unis par rapport à l'Amérique latine. Notamment, il y a eu, si on peut dire, deux moments qu'on pourrait distinguer. L'un, c'est d'exiger avec tous les autres la mise en place des fameux accords de Costa Rica qui n'ont jamais abouti. Et désormais, on entend les États-Unis dire qu'ils vont soutenir le résultat des élections, ce qui semble être une inflexion par rapport à cette première prise de position. Quel est votre regard sur le rôle que les États-Unis ont joué dans la situation hondurienne ?
Les États-Unis ont été mis dans une position complètement ambiguë et en porte-à-faux par rapport à leur politique traditionnelle vis-à-vis des pays d'Amérique latine. Le cas du Honduras, en ce cas-là, est vraiment très très révélateur de ce petit laboratoire géopolitique qui est en train de s'instaurer. Effectivement, dans un premier temps, je dirais presque c'est l'appel du cœur. Il y a un président qui est déposé, donc on le soutient. On le soutient et ça, c'est quelque chose qui a perturbé, je pense, très fortement les golpistas qui semblent, dans un premier temps, s'être trompés d'époque. On peut déposer un président parce qu'il est de gauche, parce qu'il est près de Chavez, Chavez étant l'ennemi intime à l'heure actuelle des États-Unis. Donc on va avoir le soutien des États-Unis. Et il semblerait qu'effectivement, ils aient eu en tout cas le soutien de Llorens, l'ambassadeur des États-Unis à Tegucigalpa, qui fait partie, je dirais, de l'aile dure du corps diplomatique. Donc ils s'attendaient à ça et ils ont été très surpris de voir que Obama et les représentants américains se sont opposés à leur golpe. Et là, les alliés traditionnels des États-Unis se sont sentis un petit peu trahis, pas seulement au Honduras, mais ailleurs. Mince, quand même, si maintenant les États-Unis ne s'opposent pas à Chavez, à qui vont-ils s'opposer ? Et puis ensuite, il y a eu cette inflexion, effectivement, qui est peut-être liée à des contraintes économiques. On sait que les maquiladoras jouent un rôle important dans l'économie hondurienne et que de nombreux groupes américains attendent impatiemment la résolution du conflit pour continuer à faire des bénéfices. Et là, on assiste, on voit qu'effectivement, le gouvernement, la Maison-Blanche a dit qu'ils allaient approuver finalement le résultat des élections. Le terme qui a été utilisé est fort, c'est « on repart à zéro ». Et évidemment, ce terme très fort est un désaveu complet pour Zelaya. Et là, avec cette inflexion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Les États-Unis semblaient avoir trahi leurs alliés traditionnels. Et maintenant, ils trahissent les autres. Donc, la position est nécessairement affaiblie.
Chercheur en droit au CREDAL et chargé de mission auprès du président de l'Institut des Amériques, Jean-René Garcia a, quant à lui, analysé le cas de la Bolivie, où Evo Morales semble assuré de sa réélection. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, les pays voisins de l'UNASUR avaient dû voler au secours d'un régime qui semblait menacé par la violence de l'opposition venue de Santa Cruz et autres noyaux durs anti-Evo. La Bolivie s'est-elle définitivement éloignée du spectre d'une confrontation violente ?
Alors la Bolivie est toujours au bord d'une confrontation très forte et elle vit depuis plusieurs années des soubresauts politiques et sociaux qui font qu'effectivement elle a du mal à assurer cette stabilité politique. Mais je crois qu'Evo Morales a démontré sa capacité à en fait rallier une partie des classes moyennes, ce qui a un petit peu changé la donne. Il a notamment discuté avec l'opposition politique, il a essayé de ramener à lui des partisans de ses partis politiques. Et en fait, il a, dans sa campagne, axé vraiment sa politique sur les classes moyennes et sur les classes aisées, étant donné que les classes indiennes lui sont acquises. Donc il y a un changement de discours, un changement de pratique politique avec un Evo Morales qui acquiert une certaine maturité politique et qui voit que l'avenir de son gouvernement réside bien évidemment dans une possibilité d'alliance avec l'opposition politique.
On vous entend souvent dire, attention, Morales, c'est pas Chavez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien, en fait, il ne repose pas sur la même idéologie. Effectivement, Evo Morales est toujours proche de Chavez, on l'a aussi vu proche de Castro, mais il est quand même centré sur une dynamique essentiellement de revendication des masses indiennes, ce que n'est pas véritablement Chavez, qui a une dimension politique beaucoup plus internationale et beaucoup plus se référant plus à une gauche et une droite. Evo Morales, il est dans sa problématique indienne du pays, c'est-à-dire comment faire accéder à l'ensemble du pouvoir politique ces masses indigènes qui ont été spoliées de cette participation politique pendant de nombreuses années. Donc comment inventer une nouvelle constitution avec la constitution de 2009, comment inventer un nouveau pays, comment refonder un pays qui permettra la participation des Indiens à la classe politique. Et donc ce n'est pas tout à fait le même discours politique que Chavez.
La question indigène, évidemment, vous l'avez dit, c'est très important pour lui, ça explique son rôle et sa présence. Quelle différence voyez-vous entre lui et la façon dont son collègue Correa, proche de ses idées, a géré la question indienne? Lui, il a, comme vous le dites, le soutien de toute la population indigène, et pourtant Correa, tout en se déclarant un ami des indigènes, il les a eus un peu contre lui. Quelle différence il y a eu dans la façon de travailler avec les communautés indigènes?
Je pense que Evo Morales développe depuis longtemps un discours indigène qu'il a construit petit à petit. Et puis les crises sociales ont permis de fédérer l'ensemble des mouvements sociaux autour du MAS. Et Evo Morales a su récupérer l'ensemble des mouvements sociaux pour finalement promouvoir la question indigène. Correa se passe pas dans la même dynamique. Sa volonté de promouvoir les Indiens, elle est récente, elle est pas aussi profonde que celle d'Evo Morales. Et puis surtout, elle ne s'appuie pas sur les mêmes facteurs sociaux et sur la même mobilisation des acteurs sociaux. Donc la constitution de Correa quand même s'inspire beaucoup de la constitution de Morales. Il y a cette volonté là aussi de trouver des mécanismes qui permettent l'intégration des Indiens au système politique, mais elle n'a pas pu bénéficier de cette effervescence et de cette fédération des acteurs sociaux que Evo Morales a pu avoir dans le MAS.
Quand on parle à Paris de la Bolivie, on ne peut pas ne pas évoquer les yeux doux qu'a fait Vincent Bolloré à la Bolivie, qui détient des gisements de lithium qui sont les plus importants au monde. Ça en est où, à votre connaissance, du dossier en général du lithium, de la façon dont la Bolivie gère justement les appétits des uns et des autres sur son lithium?
Je pense que c'est plus que les yeux doux que la France et que, pour ne pas le citer, Vincent Bolloré fait à la Bolivie et sur ses réserves de lithium qui sont les deuxièmes plus grandes réserves du monde. Donc il y a véritablement une volonté de la France d'investir en Bolivie. D'ailleurs, la France a créé une ENA du type français en Bolivie pour former les cadres politiques de la Bolivie. Donc il y a cette réelle volonté de la France et de Bolloré d'investir dans le pays. Mais il est vrai que pour l'instant, le dossier est un petit peu bloqué. Tout d'abord parce que les gisements de lithium font partie des départements d'opposition à Evo Morales qui veulent garder ces gisements pour eux. Donc là, il y a un débat politique entre Evo Morales et l'opposition pour savoir comment exploiter ces réserves et pour que ces réserves profitent à l'ensemble du pays. Et puis, il y a aussi un problème d'industrialisation du lithium. Le lithium tel qu'il existe pour l'instant dans le salaire de Uyuni est un état brut et nécessite beaucoup d'investissements pour pouvoir être rentabilisé et pour pouvoir servir à la production de batteries pour les voitures électriques. C'est pas encore tout de suite que l'on va pouvoir faire de la Bolivie, comme je disais tout à l'heure, la Suisse de l'Amérique latine. Mais en tout cas, il est clair que la France prendra part active à cette industrialisation du lithium.
Française.
Latina.
La Franco-Latina.